Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
On va parler bien sûr voiture dans un instant avec Christophe Bourreau et notamment du GPL. Si vous y êtes tourné vers ces systèmes-là, est-ce que ça peut être l'avenir, ces 3210 dès maintenant? On va revenir à un sujet qu'on a entamé longuement en début d'émission et qui vous fait réagir au standard et sur les réseaux sociaux. C'est le fameux Nutella Gate. Et on a Julien qui nous rejoint de Nancy. Bonjour Julien.
Oui, bonjour à tous.
Dites-nous, comment vous réagissez à tout ça, vous ?
Bah écoutez, déjà, en tant que client, je suis très choqué de voir comment ça se passe. C'est vrai que, comme disait l'un de vos auditeurs, ça témoigne effectivement maintenant du non-respect qu'on a envers tous, du manque d'éducation et de tout ce système qui est en route. Mais moi, ce que j'interviens, c'est plus à titre professionnel. En fait, je travaille dans l'univers de la grande distribution et du côté fournisseur. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup d'éclat, il est voulu aussi. Hein, lorsqu'on propose des promotions de telle sorte, on sait très bien que derrière, on va avoir en magasin une répercussion forte. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que face à ces géants de la grande distribution et qui sont souvent étrangers, hein, Ferrero et Italien, c'est que pour des sociétés françaises, ça devient très compliqué de pouvoir, face aux acheteurs de la grande distribution, répondre et rivaliser avec ce type d'offre.
Non, mais là, apparemment, c'est pas Ferrero qui a proposé ça, c'est le distributeur qui a décidé de lui-même de faire cette promo à 70%.
Alors, rien n'est gratuit, vous savez, oui. Tout ce que vous voyez en catalogue, tout ce que vous voyez en promotion, une grosse partie est supportée par le fournisseur. Et c'est là tous les enjeux qu'on a lorsqu'on se retrouve dans les box de négociation.
C'était téléguidé tout ça, Julien, en fait. Hein,
c'est bien ça. Entendu. Mmh. Alors, je n'en doute pas qu'Intermarché supporte effectivement peut-être une part de la promotion et où c'est engagé sur un volume national. Mais il faut pas croire que Ferrero, pour lui, c'est gratuit. Hein.
Oui, bien sûr.
Néanmoins, maintenant, effectivement, il faut aussi voir derrière ce produit ce qui se cache. Aujourd'hui, on a des gens qui se battent pour un produit qui est fabriqué avec de l'huile de palme. Et on ne parle pas de tout l'écosystème et de l'impact que ça a sur les animaux.
On l'a fait souvent, Julien.
Oui, je sais.
On l'a dit, hein, souvent.
Mais quand je dis « on », c'est nous, en général. Ouais, bien sûr, en France, les consommateurs... On a aussi un problème où on éduque, hein, j'aime pas trop ce mot, mais on éduque le consommateur, le client, nous tous, à vivre avec des promotions. C'est-à-dire qu'on vit avec des têtes de gondole, on vit avec des promotions continues.
Tout ça pour faire consommer et consommer beaucoup.
Oui, c'est une bataille de grands distributeurs, en fait, hein, et de marques. Hein. On a tous envie d'être en catalogue, on a tous envie, effectivement, d'avoir des produits qui sont dans les têtes de gondole. Enfin, voilà. Et oui, nous, les clients, on a toujours envie de profiter de la meilleure offre.
Et vous nous confirmez que c'est vraiment le prix le plus bas qui marche le mieux, toujours?
Pas forcément. Aujourd'hui, on voit des études où effectivement les consommateurs commencent à revenir vers du bon, sain, local. Mais bon, vous avez quand même une grosse partie de la population qui vient en magasin à cause du catalogue et du prix. Mais sauf que aujourd'hui, on a des matières premières dans tout qui augmente. Aujourd'hui, quand on aura même des grands distributeurs qui pourront plus faire face à l'augmentation des prix, est-ce que nous, consommateurs, on sera prêt à se dire, aujourd'hui, que ça soit ma barquette de thon, que ça soit mon pot de Nutella ou autre chose, je suis prêt à l'acheter plus cher.
Vous avez été très nombreux à réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les images. Je voudrais qu'on revive la scène, mais à la radio, avec Valérie, qui est dans l'Essonne. Bonjour, Valérie.
Bonjour à tous.
Vous étiez hier dans un Intermarché,
oui,
hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, par hasard, parce que je devais acheter une couche pour mon fils. Donc, avant d'aller au travail, je me suis arrêtée à 9h à l'ouverture. Donc pas forcément beaucoup de monde, mais d'un coup, tout le monde est sorti de je ne sais où. En fait, moi, j'ai pu en récupérer trois parce que effectivement, j'étais. Alors, il y en avait en tête de gondole, mais aussi dans le rayon. Donc, je me suis dit, je vais en prendre. Alors, il faut savoir que j'en mange quasiment jamais parce que j'ai trouvé un produit entre guillemets équivalent, beaucoup moins cher et meilleur. Donc, du coup, je me suis dit, je fais plaisir à mes enfants, j'en prends un et un pour mes parents et puis un autre pour mon autre famille. Et du coup, là, ça commençait à monter le ton, les gens s'insultaient, et puis une petite dame, vous voyez que forcément, elle n'avait pas forcément les moyens, qui dit, en fait, moi, j'en veux juste un, c'est juste pour mes petits-enfants, etc., etc. Et du coup, les gens commencent à l'insulter, ça commence à se pousser, etc. Et donc, moi, je repasse forcément juste avant d'arriver aux caisses, et puis je dis, écoutez, madame, prenez le pot, moi, j'en ai trois, je vois même pas l'intérêt, effectivement, de se battre. Et en plus, il faut savoir que la date de péremption, c'est au mois d'août. Donc, oui. Je ne sais pas ce que vont faire les gens avec tout ce Nutella, quoi. Mmh. Donc, il faut manger matin, midi et soir. C'est vraiment un peu débile, quoi.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en assistant à cette scène, Valérie?
Bah, ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein, parce qu'on se dit qu'effectivement, pour un pot de Nutella... Donc, effectivement, moi, j'en ai acheté un. Donc, effectivement, on pourrait aussi me lancer la pierre. Je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, le monsieur disait, pour du Perrier, il n'y a pas eu autant de gens. C'est vraiment... On se demande, mais dans quel monde on vit, quoi? Les gens sont prêts à s'insulter, à se pousser. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Enfin, franchement, ça fait vraiment peur.
Merci du témoignage, Valérie. On vous embrasse.
Très bonne journée. À bientôt.
Bonne journée à vous. Merci à Julien aussi d'avoir pris la parole. Les débats se prolongent sur nos réseaux sociaux, sur le compte Twitter RTL Midi. Vous avez à disposition la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On parle
si,
voiture.
Ouais, et si on changeait de carburant?
Ouais.
Allez.
Elle va mieux dans voiture. Instant. Elle marche à nouveau.
Elle
c'est
marche
bon
mieux aujourd'hui. Ouais.
Christelle Robert, elle a acheté une voiture neuve. Elle marche pas déjà.
Hier, elle marchait pas. Je donnerai pas la marque.
Le GPL dans un instant.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Et si on changeait donc de carburant avec la flambée du prix de l'essence depuis le début de l'année, il y a deux solutions qui refont surface, le bioéthanol et le GPL. Christophe Bourreau est de retour dans ce studio. Ce sont des carburants, Christophe, qui ont le mérite d'exister pour les automobilistes, mais ils s'en vendent très peu quand même.
Et oui, un exemple, moins de 1000 véhicules neufs roulant au GPL ont été immatriculés l'an dernier en France sur un marché de 2 millions.
C'est-à-dire rien du tout.
C'est-à-dire peanuts, ouais. Le parc GPL en France, c'est moins de 300 000 voitures. C'est 30 000 pour les voitures au bioéthanol, comparé alors pour le GPL aux 14 millions de GPL qui sillonnent quand même les routes européennes. Pourtant, ce carburant a vraiment de quoi... a vraiment des arguments. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que tout simplement le gouvernement a arrêté le bonus écologique. Donc voilà. Donc le GPL n'en bénéficie plus. Mais il a un argument de poids, c'est son prix, notamment 78 centimes à la pompe. C'est 60 centimes aussi pour le biocarburant. Alors quand on sait qu'aujourd'hui le diesel et l'essence flambent, hein, c'est plus 10 centimes. On est à 1,49€ pour le diesel, 1,54€ pour le sans-plomb 98. Bref, il n'y a pas photo. Et effectivement, avec le prix à la pompe qui flambe, eh bien, de plus en plus de consommateurs vont s'intéresser à ces deux carburants, d'autant que les constructeurs s'y remettent. C'est le cas notamment de Dacia, comme un poids lourd sur le monde de l'automobile, puisque c'est les meilleures ventes en France, eh bien, revient aujourd'hui au GPL.
On a des auditeurs qui nous appellent et qui roulent au GPL, justement, et depuis un petit moment, en l'occurrence, pour Bruno, qui est dans la Manche. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour à vous, messieurs, dames.
Bonjour.
Ça fait quoi, 2 ans, c'est ça?
Oui, ça fait un peu plus de 2 ans que je roule avec ce système GPL. Au départ, j'ai acheté donc un véhicule que j'ai fait transformer chez un spécialiste français du GPL. Mm-hmm. Et j'en suis fortement satisfait. Hein.
Mm-hmm. Pourquoi vous avez décidé de passer au GPL et avec quelle marque? Parce qu'apparemment, c'est pas très facile de trouver des véhicules, en tout cas chez les constructeurs français.
Chez les constructeurs, non, mais vous pouvez très bien acheter un véhicule essence et le faire modifier ensuite chez un spécialiste. Bon, si vous me permettez de citer, hein, en France, il y a un spécialiste qui s'appelle Borel, hein, qui permet de transformer la plupart des véhicules, hein, qui sont présents sur le marché. Donc, c'est tout à fait possible. Hein.
Et ça coûte combien à peu près?
Bah, il y a un coût, forcément. Hein, moi, le coût de ma transformation était d'environ 2 500 euros. Hein. J'ai fait ce choix pour des raisons environnementales, parce qu'effectivement la carburation au GPL permet de moins rejeter de particules dans l'environnement, et c'était pour moi une envie d'aller dans ce sens.
Et c'est jusqu'à 20% de CO2 de moins. Hein. D'ailleurs,
oui, tout à fait.
Vous bénéficiez dans pas mal de départements d'exonération de la carte
grise.
Tout à fait,
c'est le cas dans mon département de la Manche. Hein, tout à fait.
Et puis on peut circuler en centre-ville aussi. Ça aussi,
oui,
c'est
absolument
un argument de poids.
Il y a, bah, effectivement, en ce moment, quand on voit les restrictions à venir, et en particulier dans les grandes villes, effectivement, c'est un atout majeur.
Donc pour vous, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que l'électrique?
Oui, parce que l'électrique, pour moi, pour l'instant, pêche par son autonomie. C'est avant tout ça. Et les temps de recharge aussi, hein, qui sont assez longs, à mon sens. Donc, effectivement, je pense que l'avenir passerait plutôt par des véhicules à hydrogène, effectivement, où là, il serait plus intéressant de rouler, quoi. Mais bon, les constructeurs n'ont pas encore envie de faire ce pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ni les pétroliers, peut-être, non plus, d'ailleurs, ne le veulent pas.
Moins cher et moins polluant, en tous les cas. Vous roulez beaucoup, Bruno?
Oui, je fais en moyenne 20-25 000 km par an.
Bonjour, enfin, François.
C'est pas beaucoup non plus. Hein.
Oui, mais restez avec nous,
Bruno. Bonjour, François.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le Val d'Oise.
Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement. Donc moi j'ai une voiture GPL, ça fait 7 ans maintenant, c'était une monte usine et j'ai bénéficié justement du bonus dont vous parliez, qui était très intéressant au niveau de l'acquisition. En plus j'avais une reprise d'une ancienne voiture qui était épave à l'époque, donc voilà, tout mis bout à bout, c'est vrai que c'était très intéressant au niveau économique. Après, moi, je fais à peu près 100 km par jour. Ce dont vous parlez pas pour l'instant, c'est vrai que effectivement, le niveau de coût du carburant est très moindre, on va dire, par rapport.
Mais vous consommez plus.
Exactement. C'est voilà, c'est ça. Plus, c'est là où je voulais en venir.
Et donc à l'arrivée, c'est kiff-kiff.
Je pense que effectivement. Alors moi, j'ai une Fiat Panda, mais si je prends ma consommation par rapport à une petite voiture équivalente en diesel, je pense qu'au niveau coût, on est à peu près au même niveau. Alors, pendant ça, c'était sans prendre en compte la dernière augmentation sur le diesel.
Ça, c'est extrêmement intéressant, Christophe, finalement.
Oui, c'est 20% en plus, grosso modo. Mais selon les calculs qui sont faits par les professionnels ou les journaux spécialisés donc, qui n'ont pas d'intérêt dans la matière, on économise quand même. C'est-à-dire que plus on fait de kilomètres, plus on va économiser. Il y a aussi l'avantage d'avoir une bicarburation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le cas sur votre voiture, François, mais il y a à la fois un réservoir essence et GPL. Donc, il n'y a pas de risque.
Tout à fait, exactement. Voilà.
Ah oui, d'accord,
la voiture démarre à l'essence et ensuite bascule sur le GPL une fois que le clapet est assez chaud pour basculer.
D'accord. Bruno, c'est la même chose chez vous ou pas ?
C'est exactement la même chose pour moi. J'ai une double carburation, effectivement. Donc, effectivement, ça permet d'augmenter l'autonomie du véhicule. Et donc, comme effectivement, on ne trouve pas forcément des pompes GPL forcément partout, quand on a un petit peu d'essence sous le coude gauche, ça peut nous dépanner.
Oui, il y a 1750 stations-service sur 10500 qui distribuent ce carburant. Ça.
Oui. Restez avec nous, messieurs. On va accueillir Farid. C'est un débat d'hommes. C'est assez bizarre. Bonjour, Farid.
Bonjour.
Vous nous appelez de nos mains dans le Nord.
Tout à fait.
Alors.
Moi, je suis donc propriétaire de 3 véhicules. J'ai 2 berlines allemandes diesel pour la semaine. Et le week-end, je roule en Chevrolet, un gros Chevrolet, un Chevy Van qui fait 500 chevaux, qui est en triple carburant. C'est-à-dire que j'ai du super, j'ai de l'éthanol et j'ai du GPL. J'ai fait monter ce kit qui m'a coûté 2000 euros il y a 3 ans sur ce véhicule d'importation. Le souci à l'heure actuelle en France, c'est que le GPL, déjà, il est bien plus cher que partout en Europe. Là, j'habite à la frontière belge, on touche le GPL à 0,46 le litre. En France, le mieux que vous trouvez, c'est chez Leclerc à 0,58. Sur les stations essence d'autoroute, vous êtes entre 0,89 et 0,93 quand vous en trouvez. Et en plus, le déconfort du GPL à l'heure actuelle, c'est que les stations ne sont pas en libre-service GPL, entre guillemets, quand je m'entends libre-service, vous ne savez pas vous servir avec une carte bancaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la station soit ouverte pour avoir du GPL.
Ah oui, d'accord. Donc sur les autoroutes,
vous ne pouvez pas. Moi, j'habite la frontière, je voyage beaucoup le week-end, et je me promène pour venir sur le sud de la France. Je passe par la Belgique, par le Luxembourg, la frontière allemande, pour rejoindre la France à partir de l'Isère, pratiquement. Tout ça pour pouvoir trouver du GPL à pas trop cher. Et vous avez encore pire que ça, parce que vous avez l'éthanol en France, qui est aussi un carburant propre, qui n'existe pas sur l'autoroute.
Il n'y a quasiment pas de station, il y en a 700 stations.
Il n'y a pas de station éthanol sur l'autoroute. Moi j'ai des applications GPL et applications éthanol. Je peux vous assurer que quand je vais dans le sud de la France, j'ai une résidence dans le sud, je sors 5 fois de l'autoroute pour faire mes pleins.
Bruno, vous rajoutez quelque chose de la
branche. Je voulais dire que concernant les libres services GPL, ils commencent à se développer sur le territoire français, puisque moi, à Cherbourg en particulier, il y a une station qui est passée en libre service GPL. Donc c'est tout à fait possible de s'approvisionner en libre service.
Pourquoi
une
on est aussi.
Station, une station.
Une seule sur la. Oui,
j'adore. Elle est là-bas.
Mais c'est le début, disons que c'est le début du développement de ce type.
Moi, c'est mon deuxième véhicule au GPL. Le premier, je l'ai fait en 2000. C'était un Chevrolet Blazer que j'avais acheté chez Ford et j'ai fait transformer en Belgique en GPL. Je l'ai remis à l'essence et je l'ai vendu parce que je ne pouvais pas rouler avec tellement il consommait. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de GPL en France. La France, on est aux prémices du GPL. Je suis un très gros pollueur avec mon entreprise de transport en diesel. Je me dis le week-end, essaye d'être propre moi le week-end.
Il se déculpabilise. J'adore. Bon, et le bioéthanol, Christophe Bourou, alors ?
Le bioéthanol va certainement se développer cette année puisqu'il y a une grande révolution où vous pouvez désormais faire adapter un kit depuis votre voiture essence pour pouvoir utiliser des désormais le bioéthanol. Ça coûte environ 700 euros. Et là, quasiment beaucoup de voitures, c'est-à-dire on estime à 10 millions le nombre de voitures qui pourraient être concernées par ce type de carburant. Ce qui est énorme. Alors là, on est à 60 centimes le litre.
On a trouvé une femme qui veut intervenir. C'est Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne.
Heureusement que vous êtes
bonjour.
Là. Bonjour Fabienne.
Une grosse ambiance derrière vous d'ailleurs, Fabienne. Dites-nous tout.
Ben voilà, il y a 5 ans et demi, 6 ans, mon époux avait envie d'acheter un Duster Dacia. Et puis, lorsqu'il est allé le commander, donc, il a eu un modèle, finalement, qui pouvait rouler au super éthanol. Il a eu, donc, des avantages au niveau de l'acquisition. Hein, on lui a fait, à cette époque, des avantages par rapport à ce modèle. Et je dois dire que depuis, bon, ben, il est entièrement satisfait de son véhicule. Il utilise alors à peu près 30% de plus que lorsqu'il roulait à l'essence. Mais par contre, étant donné qu'on trouve du carburant à 0,45 centimes, notamment dans l'Aisne, ou alors en moyenne à peu près à 0,70 centimes le litre, après tous les calculs qu'il a fait, c'est quand même rentable. Mmh. Et il est vraiment satisfait, à tel point que là, il envisageait de changer de véhicule, mais apparemment, les derniers modèles de chez Dacia ne faisaient pas de super éthanol d'emblée. Mmh. Alors, on espère que, bah, écoutez, ça va se vulgariser et qu'on pourra continuer à trouver des véhicules de ce type. En tout cas, lui, il en est entièrement satisfait.
Voilà un témoignage de plus de Fabienne. Merci, on vous salue à Ronny Soubois et merci à Farid, à François et à Bruno d'être intervenus avec Christophe Bourreau, bien sûr, sur ce dossier qu'on va retrouver sur notre site RTL.fr. La voiture, c'est la priorité, c'est tous les vendredis dans RTL Midi.
Merci
Laurent Gérard. Laurent Gérard dans un instant.
Dans un instant.
RTL Midi.
On retrouve Laurent Gérard qui cultive notre jardin aujourd'hui.
Alors que l'hiver semble relâcher un peu son étreinte glaciale, c'est le moment pour les jardiniers de recommencer à planter. Écoutons les conseils du jardinier de Silence ça pousse, notre ami Stéphane Marie. Bonjour Stéphane Marie.
Bonjour, bonjour. Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est moche ce studio, qu'il est moche. On voit que l'hiver est passé par là. Hein. On va végétaliser.
Volontiers Stéphane, qu'est-ce que vous nous proposez pour le rendre plus vert notre
Alors d'abord
studio.
On va planter des gros bulbes bien gonflés, des gros bulbes bien gonflés tout autour. Allez, le jardin, on bêche, on pioche, on bine, on rattelle, on retourne les mottes.
Voilà, et ensuite
sur la grande table d'Yves Calvi, on va planter des Duhamelis plantatus selectionis, des Phogyellus diventis. Attention avec les Phogyellus diventis, si on s'approche, ça pique les yeux. Oula, on pleure tout de suite.
D'accord, on y pensera. Et pour l'ambiance générale?
Oh là 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 là, on va mettre des lanternes et puis du paillage et puis du crottin. Ouh, du crottin et des graines de Rupetta vulgaris qui vont tout éclore au printemps. Pop, 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 pop. On végétalise.
D'accord. Merci Stéphane, on a bien compris.
On végétalise.
D'accord. Ah, et si nous allions au musée? Pour nous aider à choisir la plus belle des expositions, prenons conseil auprès d'un spécialiste de la culture contemporaine, Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice.
Bonjour, la Jonathan me dit rien.
Oui.
Je parie que tu reçois encore ta cousine des Charentes à la capitale.
Oui.
Elle en a marre des trésors de l'Égypte, alors tu cherches une expo branchée.
Oui.
Un truc parisien hyper pointu pour les pâtés, une performance artistique exigeante qui dérange, comme on dit dans l'Ibé. Hein.
Oui.
C'est bien ça, la Jade.
On ne peut rien vous cacher, Fabrice. Et donc, vous avez repéré une expo à nous recommander?
Je t'emmène au musée d'art contemporain du Palais de Tokyo. Voir Abraham Poincheval, un artiste marseillais qui va rester enfermé une semaine dans un bloc de pierre de 12 tonnes avec une bonbonne d'eau, des compotes et de la viande séchée.
Et c'est original. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Il n'y a pas grand-chose à voir, Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à voir, je suppose, là.
Et ben voilà, la Jade, elle est très feel good, hein.
Oui.
Hein, elle est très feel good.
Préfère, oui.
Elle veut voir des trucs, et c'est fait exprès, la Jade. S'il y a rien à voir, on n'est pas dans La La Land, hein. On est dans du très lourd, c'est le cas de le dire.
Oui.
On voit rien, mais on sait que l'artiste est dans le rocher. C'est terriblement dérangeant.
Excusez-moi d'insister, Fabrice, mais comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans ce gros rocher?
Mais parce que, écoute bien, c'est authentique, je te lis la brochure. pour signer la performance, un tuyau évacue les déjections.
Ah oui, ça donne pas forcément envie de faire des selfies devant l'œuvre.
Mais attends, c'est pas fini. Pour le même prix, tu peux voir la bouteille en verre dans laquelle Abraham Poincheval a navigué sur le Rhône pendant une semaine. Et la carcasse d'ours dans laquelle il a dormi pendant 13 jours.
Oui.
Et tu peux même revenir début mars avec ta cousine.
D'accord, je dirais.
Voir l'artiste qui sera démoulé de son bloc de pierre et qui va couver des œufs jusqu'à la naissance des poussins. C'est énorme. C'est vrai, c'est énorme. Avec ça, crois-moi, la Jade, ta cousine n'est pas prête de revenir.
Nous sommes en 1981 et dans cette nouvelle lettre inédite, François Mitterrand raconte à sa maîtresse les derniers événements de sa vie de futur président de la Ve République.
Oh mon âne, oh ma Mona Lisa, oh ma divine idylle. Me voilà dans ma loge après mon débat avec Giscard. Cette année, il n'y avait pas Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. J'ai dû prendre une retraite bien méritée. Mais Michel Cotard et Jean Boissonnat. Ce Boissonnat, c'est un pinailleur. Toujours à vouloir vérifier les chiffres que j'ai inventés pour mon programme. Toi, tu as vu, mon âne, je ne suis pas laissé faire par le vieux. Quand il m'a demandé le cours du Marc, j'ai sorti les canines, j'ai battu des cils et je lui ai répondu du tac au tac. Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le président de la République ici. Vous êtes simplement mon contradicteur. Vous avez tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Ah, il avait le menton qui tremblait. On aurait dit qu'il essayait d'avaler une patate. J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Quelle rigolade! Et tu as remarqué le petit baratin sur la peine de mort? Je crois que c'était pas mal. Il faut dire que je devais bien ça au Badinter. Il garde souvent Mazarine pendant la campagne. Il s'en voit beaucoup. Elle est tellement taquine. L'autre jour, ils l'ont emmené voir un spectacle féministe pour enfants avec Anne Sylvestre et Colette Mani.
Mon Dieu!
Pour se venger, elle a remplacé la crème de jour d'Elisabeth par un tube de cirage Barane. Tu l'aurais vu, la Badinter. Elle était aussi bronzée que Kofi Annan. Impayable. Enfin, ce débat, c'est une bonne chose de faite. Après mon élection, je compte voyager et compléter ma collection de chapeaux. Il faudra que j'en parle au protocole de l'Élysée. J'en veux à chaque déplacement. En plus, évidemment, du bob marron que tu m'as offert et qui ne me quittera pas. J'ai déjà repéré un sombrero mexicain, un chapeau de cow-boy du Texas. Et pourquoi pas une de ces toques africaines multicolores avec une boule au bout du ficelle. C'est rigolo, ça change un peu. Ah, vivement dimanche, qu'on en finisse et que j'ai le temps de lire enfin. J'ai une énorme pile de livres en retard. Au moins 4 brigades mondaines. Et les 3 derniers SAS. Je les ai cachés sous des piles d'éditions originales de Chardonne, Chateaubriand, Barès, Drieux, La Rochelle. Ça les épate toujours. Et les éditions en vieille peau, ces gogos de journalistes. Surtout, ne me raconte pas la fin, mais il paraît que dans Guépier en Angola, le prince Malko se laisse séduire par l'espionne russe à gros seins qui avait voulu le défenestrer dans 3 veuves de Hong Kong. J'ai hâte de voir comment ça finit. Je te laisse, mon âne, avec cette pensée de Confucius, pleine de confiance et d'espérance. Un coup de barre, Mars, et ça repart.
Laurent Gérard, un coup de barre et ça repart. On le retrouvera lundi matin. Chez Yves Calvi, 9h10.
Absolument, tout est dit. La curiosité arrive, 14h03, bien sûr, avec Sidonie Bonnec, avec Thomas Hugues. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous les deux. Bon, vous le savez, bonjour. Les Kennedy sont éternels. Eh bien, on va vous présenter la nouvelle génération, ceux qui font, alors forcément de la politique, mais aussi les autres, ceux qui bossent à Wall Street, dans la presse, ou à Hollywood. Et puis, toute autre chose, juste avant le Grand Prix d'Amérique, on reçoit Bernard Glass pour découvrir les stars de la course, ou Razi et ses héritiers, et puis aussi le jargon hippique. Nous saurons enfin ce qu'est le fameux pénétromètre.
Ah, ça nous intéresse.
On va rester à l'écoute, évidemment. À tout de suite, 14h03 avec Sidonie pour la curiosité. On se retrouve lundi, Christelle.
Lundi, avec plaisir et de bonne humeur.
Vous écoutez RTL.